Il y a dans le psaume 37, au verset 21, un adage assez curieux qui se dit en hébreu « La verasha velo yishalem v'tzadik ronen v'noten ». Voilà, si vous n'avez pas compris, en français, c'est compliqué à traduire, c'est pour ça que j'ai pris cette précaution, nous allons le voir. Mais c'est traduit habituellement dans nos Bibles par « Le méchant emprunte et ne rend pas, le juste a pitié et il donne ». Le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste a pitié et il donne. Donc longtemps, j'ai lu ce passage comme une sorte de commandement moral, qui disant que si on emprunte, il faut rendre. Donc si on vous prête un livre, il faut le rendre, sinon c'est pas bien, c'est du péché. Et que ce qui est encore mieux, plutôt que d'emprunter, c'est de donner. Le sens moral est intéressant, mais néanmoins, je crois qu'il faut aller plus loin que cela, bien sûr. Et en particulier, il faut essayer de trouver, une fois de plus, le sens profond de l'affaire. Le sens moyennement profond, on le comprend, il y a déjà, même dans ce verset tel qu'on le lit, quelque chose d'important. Je dirais une sorte d'opposition entre le méchant et le bon. Le méchant, il emprunte et ne rend rien, alors que le juste, il donne. C'est-à-dire que le méchant, il prend tout pour lui, et le juste, c'est pas, ça ne vient pas vers lui, mais ça va vers l'autre. Et je crois que déjà là, on a la base de tout le, je dirais de toute l'éthique chrétienne ou de toute l'éthique biblique, c'est qu'il y a deux manières de voir sa vie. L'une, c'est par rapport à soi, et la seconde, c'est par rapport aux autres. Et le mauvais, le méchant, justement, tout vient vers lui. C'est-à-dire qu'il considère que tout doit venir vers lui, pour lui, et tout ce qu'il ramasse, il le garde, et tout rentre et rien ne sort, autrement dit. Alors que le juste, au contraire, il a pitié, c'est-à-dire que son sentiment n'est pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de l'autre, et au contraire, il donne, c'est-à-dire qu'il va vers l'autre. Ça change toute l'orientation de l'existence, et je crois que ce commandement d'amour, qui est même dans le Nouveau Testament, est à la base de cela. Et c'est également d'éviter le péché originel, qui était justement le centrage sur soi, et de faire soi-même le centre de tout, le centre du monde. Donc la Bible, du début à la fin, va dans cette idée, c'est que la seule logique possible de notre vie pour être juste, et même, dirais-je, pour être heureux, c'est de voir non pas ce que l'on peut gagner par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport aux événements, mais de voir ce que l'on peut donner aux autres, au monde ou à Dieu. Donc ça, je le comprends. Les pères de l'Église vont aller un peu plus loin, et saint Augustin en particulier va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un commandement moral, de comportement de soi par rapport aux autres, mais saint Augustin l'entend par rapport à Dieu. Ça élargit un petit peu le débat, et en effet, il dit, écoutez, chacun reçoit de la part de Dieu. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez reçu par rapport à Dieu ? Et que saint Augustin dit, donc, le méchant, eh bien, il se contente de recevoir. Et donc, vous avez des tonnes de grâces dans votre vie, et vous n'arrêtez pas de recevoir des choses de la part de Dieu. Et toutes ces chances, est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment ? Réponse, dit saint Augustin, non, elles sont en fait les propriétés de Dieu, même votre vie ne vous appartient pas, donc tout cela vous est prêté. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de ces dons, de ces choses qui vous sont confiées ? Et le juste, eh bien, ce qui lui est confié, il le donne. C'est-à-dire qu'il est également dans l'action de grâce, et il peut au moins remercier. On pourrait développer cela en dérivant sur la parabole des talents, bien sûr, où on voit que le serviteur qui a beaucoup reçu, on lui en demande beaucoup, et le serviteur qui a moins reçu, on lui en demande moins, mais la seule chose grave, c'est celui qui ne fait rien de ce qu'on lui a confié. Bon, ça je comprends à peu près, mais on reste dans le domaine du catéchisme pour enfants, et c'est pas pour vous dire cela que j'ai voulu vous parler, parce que ces choses-là, vous les connaissiez déjà. Ce qui a attiré mon attention, c'est le mot qu'il y a au milieu du verset. Quand on dit « le méchant emprunte et ne rend pas », eh bien, il y a là un mot hébreu, que je vous ai lu tout à l'heure, parce que c'est un mot que vous connaissez. Et ce mot, ce n'est pas du tout « rendre », le mot c'est « lo yishalem », et shalom, c'est la paix. C'est-à-dire que mot à mot, il n'est pas du tout écrit « le méchant ne rend pas », mais « le méchant ne fait pas la paix ». Et ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, on comprend que finalement, l'erreur du méchant, c'est qu'il emprunte et qu'il ne fait pas la paix avec les autres, c'est-à-dire avec celui à qui il a emprunté. C'est-à-dire que sa le problème, ce n'est pas tellement qu'il emprunte, c'est que sa façon d'emprunter aux autres le conduit à faire la guerre aux autres, autrement dit. Donc effectivement, la chose essentielle là-dedans, eh bien, c'est la paix. Ou on pourrait aussi alors le comprendre autrement, et c'est, je pense, pour ça que les traducteurs ont mis tous de la même manière « il ne rend pas », alors que Shalom n'est jamais traduit par rendre quoi que ce soit dans nulle part dans l'écriture. C'est le seul endroit où les traducteurs nous mettent rendre, parce que Shalom, ça veut dire être en paix, mais ça veut dire aussi être complet, terminé, achevé, où tout est arrivé à son but. Et donc on pourrait aussi dire, le problème du méchant, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout de la chose. C'est-à-dire qu'il emprunte et au lieu de mener les choses à son terme logique, à sa conséquence logique, qui est celle de rendre, eh bien il reste comme en suspens et il ne règle pas ses problèmes en quelque sorte. Je comprends à peu près cela. Mais admettons encore que le problème du méchant, c'est qu'il emprunte et que ça devienne pour lui une occasion de faire la guerre avec celui à qui il a emprunté. Mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que ce que l'on a traduit là par « emprunter », décidément je vais vous démonter tout le verset mot par mot, excusez-moi, mais ce que l'on traduit là par « emprunter », le verbe hébreu « lava » veut dire aussi bien « emprunter » que « prêter », c'est-à-dire que ce n'est pas très clair. « Lava » en hébreu, ça veut dire être, normalement ça veut dire être dans un lien de relation avec l'autre, être en contrat avec l'autre, dans un sens comme dans l'autre, puisque « lava » est traduit de temps en temps par « emprunter » et de temps en temps par « prêter ». Et du coup, ce verset en dit peut-être plus qu'on ne pense. Et ce qu'il dit, c'est que le méchant, il entre en relation avec quelqu'un, et quand il entre en relation avec quelqu'un, que ce soit pour emprunter, pour prêter, pour faire ce que vous voulez, eh bien cette relation, elle n'est pas faite pour amener à la paix, mais elle est faite pour mener à la querelle, autrement dit. Parce que cela montre, je crois, que d'un point de vue biblique, peu importe que vous empruntiez, que vous prêtiez, que vous dépensiez, que vous économisiez, la seule chose qui compte, c'est la relation à l'autre. Et donc, ce que vous faites, est-ce que ça contribue à la paix ou est-ce que ça ne contribue pas à la paix? C'est le seul critère, je crois, de validité d'un geste, dans le sens biblique du terme, et en particulier dans cette question-là de ce verset qui nous intéresse. Le méchant, quoi qu'il fasse avec un autre, ça mène de toute façon au problème. Voilà. Alors que le juste, il donne et il fait grâce. Il a pitié, il fait grâce, il fait miséricorde. Et il donne. Alors il est vrai que donner suppose à un moment donné de se départir de quelque chose. Si on ne peut pas à la fois donner et conserver. Donc le don coûte, évidemment. Si le don ne coûtait pas, ça ne serait pas un don. Mais c'est là peut-être justement le juste, c'est que lui, il est dans la grâce, il est dans la paix, alors que le méchant, il n'est jamais dans la paix et sa relation va toujours pour autre chose. On pourrait pousser à bout ce commandement en disant que c'est finalement rien d'autre que ce qu'a dit Jésus-Christ en permanence. Quand il dit dans le sermon sur la montagne « Ne résistez pas aux méchants, si on te vole ta tunique, donne-lui ton manteau », justement, ça veut dire le but, c'est pas tellement que tu conserves ta tunique ou ton manteau, c'est que tu arrives à être en paix même avec celui qui t'agresse. C'est-à-dire qu'on est là dans une logique extrême, disant que la relation, elle doit être nécessairement pour la paix et pas pour autre chose. Or, quand on est avec quelqu'un, forcément, à un moment donné, cette personne, soit vous lui devez, soit elle vous doit. C'est-à-dire qu'une relation, par définition, c'est quelque chose qui passe d'un côté à l'autre. Et c'est rarissime qu'une relation soit équilibrée, c'est-à-dire que l'on reçoive de l'autre autant qu'il nous donne. Dans une relation, il y a toujours quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui donne. Eh bien, soit on est dans une logique de la comptabilité, et soit on est dans une logique de la grâce, soit on est dans une logique de garder pour soi le maximum, soit dans celle de donner. Alors, bien sûr, ça ne culpabilise pas forcément le fait d'emprunter, une fois de plus. Mais si on reprend le sens premier, d'emprunter quelque chose, cela voudrait dire vous pouvez emprunter, mais restez en bonne relation avec celui à qui vous avez emprunté, alors que le méchant, eh bien, il se fâche avec celui à qui on a emprunté. Bon, je passe là-dessus parce que je reste encore très moralisateur, et je vais aller encore un peu plus loin avec l'autre idée que j'ai commencé à suggérer, qui est que le verbe pourrait très bien ne pas signifier emprunter, mais en fait prêter. Et je me demande si effectivement prêter n'est pas plus grave qu'emprunter. Parce que emprunter, ça peut être embêtant parce qu'on se met sous la dépendance de celui à qui l'on emprunte. Mais prêter, c'est prendre pouvoir sur quelqu'un à qui l'on prête. Et donc prêter, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, finalement. Et on comprend pourquoi, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans l'islam, que dans le christianisme, sauf dans le calvinisme qui a échappé à ça, le prêt a toujours été considéré comme quelque chose de très proche du péché. On ne doit pas prêter d'argent, c'est-à-dire que le travail de banquier, par exemple, a toujours été culpabilisé. Parce qu'en effet, on pourrait comprendre ce verset dans l'autre sens en disant « Le méchant, il prête et il ne fait pas la paix. » C'est-à-dire qu'il prête et après il va faire la guerre au type à qui il a prêté pour récupérer ses sous. Alors que le juste, il ne prête pas, il donne. Et du coup, je me dis « Mais finalement, c'est ça le bon sens de ce verset. Il devient tout à fait cohérent et logique si on le comprend comme ça. » Le méchant, il prête et il fait la guerre. Le juste, il fait grâce et il donne. Deux logiques, évidemment, tout à fait différentes. Et ça fait penser, là encore, puisque je ne veux pas partir dans n'importe quelle direction sans garde-fou, et donc j'essaye de voir toujours s'il y a des liens entre ce que je crois découvrir et la parole évangélique. Ça fait penser à la parabole du débiteur impitoyable, justement, dans l'Évangile. Dieu, le maître, remet sa dette entièrement au serviteur, et le serviteur, lui, il ne remet pas la dette à celui qui lui doivent, à ceux qui lui doivent, et au contraire, il leur fait la guerre, et il les met en prison jusqu'à ce qu'ils rendent. Et donc, vous voyez que c'est bien ça, cette question-là, la question de la remise de la dette, en quelque sorte. Et ça m'a intéressé aussi, parce que la remise de la dette, on la trouve dans l'Ancien Testament, vous savez, c'est une des lois du Jubilé, où on dit dans le Deutéronome que lors du Jubilé, tous les 7 ans, eh bien, on doit annuler toutes les dettes. C'est un commandement assez curieux, parce qu'il n'a évidemment jamais été appliqué en Israël. C'est impossible, je dirais, de faire une société et de dire tous les 7 ans, eh bien, on va annuler toutes les dettes. Et en particulier, on comprend très bien que dans ce cas-là, eh bien, quand je vois arriver la date du jubilé, la veille, moi, je vais emprunter 1 million d'euros à mon banquier, puisque je sais que le lendemain, ce sera annulé, donc ce serait un peu simple. Et donc, cette loi est évidemment absurde et inapplicable. Et cette loi disant qu'il faudrait annuler toutes les dettes tous les 7 ans est totalement utopique. Et même, finalement, je crois qu'il y a eu des tentatives de l'appliquer à certains moments dans certaines sociétés, et on s'est rapidement aperçu que ça se retournait contre les plus pauvres. C'est-à-dire qu'à force de prétendre aider les gens endettés, eh bien, les gens riches ne prêtaient plus. Puisqu'ils savaient qu'ils ne pourraient jamais récupérer leurs biens, eh bien finalement les pauvres ne pouvaient plus jamais emprunter dès que le jubilé approchait, parce que plus personne évidemment ne voulait prêter à fond perdu quelque chose. Donc cette loi du jubilé est évidemment inapplicable, et cela veut dire que Si elle est inapplicable, c'est pas simplement que Moïse a déraillé à un moment donné, c'est qu'il faut comprendre le fond de l'affaire. Et que le fond de l'affaire, c'est qu'en soi, prêter à quelqu'un est dangereux, parce que, comme je vous l'ai dit, prêter, c'est donner pouvoir sur quelqu'un, c'est tenir le débiteur et le garder dans une situation difficile. Et ça, c'est courant aussi dans l'Ancien Testament et en particulier dans le livre des Proverbes, où il dit « n'emprunte pas, parce que si tu empruntes, tu deviens l'esclave du prêteur ». Alors ça a entraîné, je vous l'ai dit, de gros problèmes dans toutes les religions. Cette histoire du prêt a fait qu'on a considéré que le prêt était une activité coupable, et surtout, évidemment, le prêt à intérêt. Les protestants, eux, ont réussi à débloquer l'affaire en disant qu'après tout, prêter pouvait être une activité comme une autre, et qu'on pouvait prêter à quelqu'un tout en étant en paix avec cette personne, à condition que le contrat soit bien réglé. Donc c'est ça l'affaire. Mais toujours, évidemment, toutes les religions ont été contre le prêt, contre l'usure. C'est-à-dire que le prêt peut aider quelqu'un, mais il peut devenir toxique pour la personne si ça devient quelque chose qu'il ne peut plus jamais rembourser. Et donc là, on voit effectivement le méchant prête et il ne fait pas la paix. Alors, est-ce qu'il est méchant parce qu'il prête ou parce qu'il ne fait pas la paix ayant prêté? Ce sera à vous de voir. Les protestants ont conclu que le problème, c'est qu'il ne fasse pas la paix. Et que donc un bon banquier peut prêter, mais qu'il est en paix parce que tout est clair au niveau du contrat. Et de toute façon, le bon banquier évite de prêter à celui qui n'a aucune chance de rendre, pas seulement parce qu'il est moral, mais aussi parce que c'est son intérêt entre nous. Mais en tout cas, voyons que tout cela, je ne le développe pas, vous saurez le faire vous-même, ça montre, je dirais, les limites et les dangers du prêt et cette espèce de double logique de celui qui, dans sa relation à l'autre, prétend aider, mais aide en gardant toujours pouvoir sur la personne qu'il aide, alors que le juste, il a grâce et quand il aide, il donne, c'est-à-dire qu'il ne garde aucun pouvoir sur la personne à qui il donne. Et ça, c'est le problème du don même. C'est qu'il y a parfois des dons qui n'en sont pas. C'est-à-dire que quand on donne à quelqu'un et que la personne reste redevable, eh bien, on génère une sorte de génération fausse, finalement, qui fait qu'on donne un don matériel, mais que la personne redevient redevable vis-à-vis de l'autre, et donc ce don n'est pas un véritable don, parce qu'il y a finalement l'attente de quelque chose en retour. Mais le juste, lui, il donne, et quand il donne, c'est donné. Ce qui revient à ce commandement auquel ont été attachés un grand nombre de nos ancêtres dans le sermon sur la montagne, qui dit que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche, et le contraire, ça veut dire que le don idéal, c'est à la limite le don qui est donné sans qu'on sache qui l'a donné, c'est-à-dire sans se vanter de dire « moi j'ai donné ceci » ou « moi j'ai donné cela ». Mais néanmoins, on peut aller plus loin que cela encore, et c'est ce qui m'intéresse, parce que quand on parle de devoir, de dette et tout cela, eh bien, ça renvoie à quelque chose d'encore plus important dans la Bible, qui est la question de la culpabilité, de l'offense et de la faute. Parce qu'en effet, je crois même que, finalement, je suis resté là dans de la casuistique morale avec mes histoires de dons et de dettes, alors qu'en fait, il s'agit de théologie. Et la théologie, c'est de ne pas lire ces histoires comme des transactions matérielles, mais comme des rapports d'offense et de culpabilité. Et ça, on s'en aperçoit, bien que ce soit une fois de plus caché par nos traducteurs, dans le Notre Père, que vous dites tous les jours, je l'espère, vous dites tous les jours quelque chose qui n'est pas le Notre Père, puisque vous dites « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Bon, c'est très bien, mais ça c'est du roman, parce que le Notre Père ne dit absolument pas ça. Ce qu'il y a écrit dans le Notre Père, c'est « remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent ». Voilà, « remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Et donc la dette renvoie dans la Bible à la question d'être coupable vis-à-vis de quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai une dette vis-à-vis de quelqu'un parce que je l'ai offensé et que je lui dois réparation ou je lui dois des excuses. Et c'est ça le fond de l'histoire de la dette, finalement, dans l'Ancien Testament. Et on le voit aussi d'ailleurs dans la parabole du débiteur impitoyable, à propos de celui qui remet la dette à l'un et à l'autre, et qui se conclut par « C'est ainsi que Dieu vous pardonnera vos offenses si vous êtes capable à votre tour aussi de pardonner. » Et donc on voit que Jésus lui-même, ou en tout cas l'évangile de Matthieu, interprète cette parabole de la dette du serviteur impitoyable dans le sens du pardon des fautes. Et donc, vous disais-je, on est toujours redevable de quelqu'un. Et le méchant, il doit à l'autre, ou l'autre lui doit, je ne sais pas, je vous ai dit le verbe peut-être dans un sens comme dans l'autre, le verbe, on dit le méchant, il emprunte ou il prête, enfin en tout cas, il est avec l'autre dans une relation de dette. Que ce soit lui qui doive ou l'autre qui lui doive, ne change pas grand-chose. Il y a là une question de dette. Il y a quelqu'un qui doit à l'autre. Soit il a emprunté, soit il a prêté. En tout cas, il y a un contentieux entre deux personnes. Et donc, il y a de la culpabilité. Et le méchant, dès qu'il est question de culpabilité, il fait la guerre. C'est-à-dire qu'il est incapable de vivre la chose dans la paix. Et dès qu'il doit ou que l'autre lui doit, ça devient inévitablement l'occasion de faire la guerre, c'est-à-dire l'impossibilité de faire la paix. Alors que le juste, nous dit-on, il est dans la grâce, et il est dans le don. Et donc le juste arrive à aller au-delà de l'idée de dire « il me doit ceci » ou « il m'a offensé » ou « il doit pardonner » ou « je suis coupable, je devrais ceci, je devrais pardonner, je devrais réparer ». Le juste, il est dans l'idée de l'effacement de la dette. Et donc l'idée d'effacement de la dette que l'on trouve dans cette histoire-là du jubilé, je ne crois pas que ce soit un commandement, économique ou politique. Ça ne dit pas qu'il faille effacer la dette des pauvres ou des pays ou de je ne sais quoi. C'est une question éthique de rapport à l'autre et de dire « je ne peux vivre bien avec mon prochain » que si j'accepte d'effacer les dettes, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte ce que l'autre me doit et ce que je dois à l'autre. Autrement dit, il faut passer dans une autre logique qui est celle de la grâce et celle du don. Parce qu'en effet, dans les deux sens, il y a du danger et dans les deux sens, la culpabilité est toujours délétère. Soit elle est dans le sens que l'autre m'a offensé, donc il me doit des excuses, il me doit réparation, il me doit ceci ou cela, ce qu'il ne me donnera jamais, puisque l'autre, justement, s'il est méchant, par définition, jamais il viendra demander pardon. Et donc, par définition, vous pouvez toujours attendre que celui qui vous a offensé vienne se mettre à plat ventre devant vous pour s'excuser, ou que celui dont vous pensez qu'il vous doit de l'argent, de la chance, etc., vienne dire « écoutez, vraiment, je suis redevable, voici, je vous donne la moitié de ma fortune ». Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça, jamais, ou pratiquement jamais. Et donc, on ne peut jamais attendre que l'autre vienne faire ça. Et le psaume nous dit, le juste, il n'est pas comme ça, à se dire, l'autre me doit, et tant qu'il me doit, je ne ferai jamais la paix. Le juste, il fait grâce et il donne pour la paix. C'est tout. Parce que la paix vaut mieux que tout ce que l'autre me doit. Et ça, c'est important parce que c'est aussi, je vous l'ai dit, en rapport avec la question du pardon. Et là encore, trop souvent, j'ai moi-même enseigné aux enfants que Dieu nous pardonne si on demande pardon, et de dire « il faut pardonner à votre prochain s'il vous demande pardon ». Évidemment, si quelqu'un vous demande pardon, vous pardonnerez. Mais la question n'est pas là. La question c'est « puis-je pardonner à celui qui ne me demande pas pardon » c'est-à-dire celui qui ne rend pas. Eh bien, réponse, oui, parce que la logique c'est le don. Et le don, c'est pas de dire « j'échange ta confession des péchés, j'échange ta demande de pardon contre ma grâce ». Ça, ce n'est pas de la grâce, C'est simplement un échange. Je dis voilà, je salarie, je félicite l'humilité que tu as eue de demander pardon. Et puisque tu es venu faire réparation en jetant à mes pieds une bourse pleine d'or de ce que je pensais que tu me devais, je considère que ta dette est annulée. C'est pas comme ça que ça se passe. Le juste, il fait grâce et il donne. On est dans une logique tout autre. Et puis, si on est dans l'autre sens et qu'on se sente soi-même coupable, eh bien, ça empêche aussi de vivre. Parce qu'on ne peut pas sans arrêt vivre en se disant qu'on est coupable. Voilà. Et même, on est toujours redevable de quelqu'un, de certains qui nous ont donné, je dirais, de nos parents, de nos enseignants, de ceux qui nous ont offert. Et on ne peut pas sans arrêt vivre en se disant je dois, je n'en ferai jamais assez pour remercier. C'est complètement stérilisant. Et à un moment donné, Moïse a raison avec son jubilé. Tous les 7 ans, remettez les pendules à zéro et considérez que vous ne devez rien à personne et que personne ne vous doit rien. C'est-à-dire qu'on est dans la grâce, parce que tout ce que l'on fait par culpabilité et par devoir, on le fait mal. Et donc dans les deux cas, je crois, que l'on doive ou que l'autre nous doive, on est dans quelque chose qui empêche la relation de paix. Parce que la relation de paix, c'est à un moment donné de pouvoir dire « Tu es mon frère, tu es ma sœur et je t'aime ». Mais on ne peut pas dire « Je suis en paix et je t'aime » à quelqu'un qui est votre supérieur ou votre inférieur. Et donc la paix ne peut se faire que par rapport à un égal. Et c'est pourquoi Dieu nous dit « Essayez d'accepter de vous considérer à un moment donné comme égal de tout le monde ». Donc vous êtes l'égal du pire de cette société qui doit à la société, qui vous doit parce que c'est une raclure du monde, vous êtes son égal. Vous êtes l'égal du plus démuni de cette société. Vous êtes l'égal du pire, je dirais, du plus pauvre, du plus déshumanisé de ces immigrants. Vous êtes son égal. Il ne vous doit rien, vous ne lui devez rien, vous êtes comme lui. Et vous êtes aussi l'égal des rois et des grands de ce monde. Vous ne devez rien aux plus grands et vous êtes l'égal des plus grands parce que la seule chose importante, c'est la grâce et la paix. Et donc le méchant, lui, dès qu'il doit quelque chose à l'autre, il est dans le devoir, la culpabilité, pas dans la paix. Et dans la comptabilité, de vivre sans arrêt dans le pinaillage, dans l'épluchure, de savoir ce que chacun mérite ou ne mérite pas, de savoir si un immigrant mérite plus qu'on l'aide qu'un SDF, de savoir si un chômeur mérite plus qu'on l'aide que celui qui travaille, de savoir si cela, eh bien, on est dans le pinaillage et on n'est en tout cas pas dans l'Évangile, j'en suis absolument convaincu. On ne peut pas sans arrêt calculer ce que l'un a reçu, ce que l'autre n'a pas reçu, ce que l'un doit à l'autre ou aux autres. Qu'il soit débiteur ou créancier, qu'il soit le riche ou le pauvre, chacun est finalement le frère de l'autre et rien ne doit être une raison de coupure. Alors le juste là-dedans, vous disais-je, il est dans la grâce, il est dans le pardon, il est dans le don et il donne. Parce que la grâce, c'est ça, c'est le pardon et le don. Quand les choses sont dues à l'un ou à l'autre, quand on se dit qu'on aurait dû faire ceci ou cela, ça ne fonctionne pas. Le juste, il offre, il ne réclame rien, il ne demande pas son dû, il est dans le pardon et il choisit d'oublier et de faire grâce. Et c'est là une chose évidemment pas si commode que ça, n'est-ce pas ? Mais qui va au-delà, bien sûr, du don matériel. C'est une logique d'existence qui est tout à fait essentielle. Et c'est pourquoi il est si important d'annuler cette dette, vous disais-je, et cette règle du jubilé, pour utopiste qu'elle puisse sembler, me semble une des choses les plus essentielles, c'est de voir que non pas d'un point de vue monétaire ni matériel, de voir qu'on ne peut pas vivre en paix tant qu'il est question d'une dette, avec l'un ou l'autre, que ce soit d'ordre moral, de culpabilité ou d'autre chose. Et que si donc nous n'avons pas Si nous avons des dettes matérielles vis-à-vis des gens, oui, bien sûr, il faut rembourser, je ne veux pas dire la chose suivante, et que si nous avons de la culpabilité vis-à-vis des autres, S'il faut réparer matériellement, réparer matériellement. Le sens premier du verset est quand même vrai. Le méchant, il emprunte et il ne rend pas, c'est-à-dire qu'il fait du mal et il répare pas. Donc évitons de faire cela. Mais néanmoins, la chose va plus loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que nous sommes incapables de rendre. Voilà, et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où justement, malheureux celui qui ne vit que dans le monde purement matérialiste, parce qu'il y a trop de choses que nous ne pouvons jamais rendre. Donc oui, rendez matériellement tout ce que vous pouvez, mais ensuite tout ce qui dépasse cela, et toutes les dettes, je dirais, morales, affectives ou autres que nous pouvons avoir, eh bien il faut considérer qu'à un moment donné, Dieu nous en libère, aussi bien de ce que nous devons que ce que les autres nous doivent. Et ça, c'est la demande que vous faites aussi donc tous les jours dans le Notre Père. Remets-nous nos dettes, et que nous remettions aussi à ceux qui nous doivent. C'est le seul moyen de vivre en paix avec l'humanité et avec nos frères et sœurs. Et finalement, croyant commenter un passage de psaume, eh bien, je n'ai fait que commenter cette demande du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Remets-nous nos dettes, et que nous remettions aussi à ceux qui nous doivent. Le méchant, lui, il emprunte et ne rend pas. Où il prête et ne rend pas, il emprunte où il prête et il ne fait jamais la paix, le juste, lui, il fait grâce, il a pitié et il donne. Et Dieu est le juste, par-dessus tout. Dieu est celui qui nous fait grâce, qui a pitié de nous et qui nous donne, sans nécessité de nous faire payer ensuite le prix de ce qu'il nous a offert. Amen.